Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
Bonjour et bienvenue à votre magazine audio en finances personnelles. Cet épisode est consacré à l'avenir, aux tendances de fonds qui nous permettent de nous préparer. Il est impossible de prévoir avec exactitude les mouvements des marchés financiers, mais une bonne planification permet d'éviter bien des mauvaises surprises. Les professionnels de la finance tentent depuis plus de deux siècles d'anticiper les tendances. Avec l'étude des graphiques et des courbes, l'analyse technique offre une vision parfois révélatrice. Isabelle Junot et sa capsule Origine nous présentent son histoire. Nous avons un autre extrait d'une captation en public du balado Le Planif réalisé au Petit Théâtre Outremont de Montréal. Ghislain Maillet, VP de District pour Fidélité Investissement, résume les grandes tendances que son employeur observe pour les 24 prochains mois. Enfin, la question du beau-frère de Rose de Magog. Il lui a demandé pourquoi elle ne se départit pas de ses fonds et FNB de style valeur. Après tout, les titres de croissance surpassent toujours les placements valeur dans les dernières années. Le balado Le Planif débute à l'instant.
L'analyse technique des marchés boursiers est une discipline fascinante qui remonte à des siècles. Bien que ses origines soient souvent attribuées à Charles Dow, l'un des fondateurs du Wall Street Journal, certains disent que les Japonais utilisaient déjà des méthodes similaires dès le 17e siècle avec les chandeliers japonais. Parmi les gestionnaires vedettes de cette approche, on peut citer Paul Tudor Jones, qui a réalisé un rendement de 125 % en 1987, notamment en prévoyant le crash boursier de cette année-là. Il y a aussi Linda Rashke, une femme qui a brisé les stéréotypes dans un domaine dominé par les hommes et qui a généré des rendements annuels moyens de plus de 20 % pendant plusieurs années. Mais la question qui brûle toutes les lèvres est la suivante. L'analyse technique est-elle vraiment efficace? Eh bien, les avis sont partagés. Certaines études, comme celle de Andrew Lowe, ont montré que des stratégies basées sur l'analyse technique peuvent générer des rendements supérieurs à ceux des indices boursiers. Cependant, d'autres études suggèrent que ces rendements sont souvent érodés par les frais de transaction. Il y a aussi des cas où l'analyse technique a surpassé d'autres styles de gestion, comme la valeur ou la croissance. Par exemple, le hedge fund Renaissance Technologies, bien que n'étant pas purement technique, utilise des algorithmes qui incorporent des éléments d'analyse technique et a généré des rendements annuels moyens de 35 % depuis sa création en 1988. Cependant, il est important de noter que l'analyse technique n'est pas une science exacte. Elle est souvent utilisée en complément d'autres formes d'analyse et est plus efficace lorsque les marchés sont guidés par la psychologie des investisseurs plutôt que par des fondamentaux solides. Bien que controversée, l'analyse technique a ses étoiles montantes et ses succès retentissants. Elle peut ne pas être la baguette magique qui transforme les grenouilles en princes, mais dans les bonnes mains, elle est un outil puissant pour naviguer dans les eaux tumultueuses des marchés financiers.
Entendre chaque matin au réveil et en prenant votre café l'essentiel des nouvelles à connaître pour commencer la journée, c'est ce que propose le balado quotidien d'InfoBref. En 5 minutes seulement, InfoBref résume les événements importants dans l'actualité. Essayez-le, cherchez simplement InfoBref dans votre appli de balado ou allez à infobref.com.
Le balado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Merci.
Monsieur Ghislain Maillet, vice-président de district chez Fidélité Investissement, est notre prochain invité. Et on va parler justement du neutre. Ça suffit, neutre. Bonjour, Ghislain.
Bonjour, Fabien.
Merci d'être avec nous.
Plaisir d'être là.
Oui. Alors, selon toi, s'il y a réaccélération de l'inflation, il faut appuyer sur le frein. Mais si l'inflation est sous contrôle, bien là, l'accélérateur est disponible.
Exactement. Donc, ce que vous voyez, c'est une illustration pour expliquer un concept qui est très favorable pour les marchés financiers. Donc, c'était la bonne nouvelle de 2023 qui se transpose bien en 2024. C'est le fait que jusqu'à 5 mois, on n'était pas sûr encore jusqu'à quel point que les banques centrales devaient appuyer le frein économique, en d'autres mots, augmenter les taux d'intérêt. Mais avec la désinflation qu'on a vue pour la majorité de 2023, les communications des différentes banques centrales généralisées partout dans le monde, on a probablement vu la fin des augmentations de taux d'intérêt, et ce qui suit souvent, c'est des coupures de taux d'intérêt. Donc, la vitesse ou le timing à laquelle on va couper les taux d'intérêt, ça dépend de comment est-ce que l'inflation continue à descendre et comment l'économie se maintient. Mais la bonne nouvelle, c'est que indépendamment de quel risque ou quelle situation qu'on va vivre en 2024, le fait que l'accélérateur qui est des coupures de taux d'intérêt est sur la table, ça permet au marché de garder plus loin. Et ça informe beaucoup nos nouvelles décisions d'investissement.
Ouais, ben je répète un peu ce que je disais en introduction. Il ne s'agit pas de faire des prédictions, mais il y a des questions qu'on peut soulever pour l'avenir en 2024 et au-delà, des tendances qui se dessinent. Mais la première question, c'est le souhait de bien des gouverneurs de banques centrales de réussir par des augmentations quasi chirurgicales de faire un atterrissage en douceur de l'économie plutôt que de provoquer une récession en augmentant les taux.
Exactement. Il y a certaines banques centrales qui vont avoir la tâche plus facile que d'autres. On voit vraiment une divergence économique entre le Canada et les États-Unis. L'économie américaine est très résiliente. Elle est très stimulée via les déficits fiscaux qui sont énormes. Je pense pas que l'élection va changer les déficits. Peut-être la nature du déficit, mais il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le système. Il y a un boom de productivité aux États-Unis qui n'est pas le cas au Canada.
Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui booste un petit peu la productivité?
Pas encore.
Pas encore.
Mais si on ajoute à ça plus tard les promesses d'efficacité qui viennent d'intelligence artificielle, ça va juste être un plus. Donc, s'il y a une économie au monde qui peut orchestrer un atterrissage en douceur, on pense que c'est les États-Unis. Et malheureusement, s'il y en a une qui va avoir de la difficulté à avoir un atterrissage en douceur, c'est le Canada.
Ah oui, et pourquoi?
Ben, c'est surtout basé sur une sensibilité au taux d'intérêt. Les Canadiens, en termes de ménage, on ne parle pas de dette de gouvernement, parce que pour nous, c'est beaucoup plus pertinent, la dette des consommateurs. On a plus de dettes. On n'a pas eu un 2008. On a vécu le 2008 d'un point de vue boursier, mais on n'a pas vu plein de dettes, d'hypothèques.
La fermeture de banque et tout, on n'a pas vu ça.
C'est ça. Donc, on a plus de dettes pour un. Et deux, le terme de cette dette est beaucoup plus à court terme. Nos hypothèques, c'est 40% variable. Le reste, c'est du 3 à 5 ans surtout. Il y a la moitié des hypothèques des prochains 2 ans qui va renouveler au taux d'aujourd'hui, si ça reste aujourd'hui, j'ai des doutes. Si ça reste au taux d'aujourd'hui, puis c'est là qu'on a des doutes, les États-Unis, c'est très différent. Ils ont moins de dettes puisqu'ils ont eu un 2008 qui a réduit leur fardeau de dette. Mm-hmm. Ils n'ont pas accumulé la dette relative à leurs revenus depuis cette chute qui a fini en 2012. Et le terme de cette dette-là, mais au-delà de 70% des hypothèques aujourd'hui aux États-Unis, c'est des termes de 30 ans.
Alors, côté immobilier, c'est complètement différent.
Oui, là, il y a certaines dynamiques qui sont similaires, mais la différence, c'est que si j'ai acheté une maison dans les derniers 12 ans où la majorité du temps, les taux directeurs étaient très bas, et j'ai gelé ça pour 3 décennies, à moins que je dois déménager, ça ne m'affecte pas les taux d'intérêt.
Mm-hmm.
Ouais.
Alors, c'est ce qui peut expliquer la résilience des marchés?
En partie. Il y a d'autres parties aussi. Mais tout ça fait en sorte que même si personne n'a une boule de cristal pour le futur, etc., notre travail, c'est quand même de se prononcer puis faire des choix. D'un point de vue tactique ou régionaux, on investit plus aux États-Unis ces jours-ci.
OK. Et c'est par les États-Unis que viendraient des performances dans les portefeuilles?
À date, depuis presque une décennie, c'est le leader de la performance boursière mondiale. Mm-hmm. Y a eu des passes que le marché américain n'a rien fait. Les premiers 10 ans de ma carrière, de 2000 à 2010, c'était pratiquement zéro, tandis que le Canada faisait bien. Mais on n'est pas dans ce régime-là.
Complètement différent. Mais les baisses des taux d'intérêt, donc, pour toi, est-ce une certitude, même si ça a été annoncé par la Réserve fédérale?
Il n'y a aucune certitude dans notre domaine, ça c'est sûr.
C'est vrai.
Mais c'est une conviction. C'est une conviction, puisque la façon que la politique monétaire s'exerce dans l'économie, ce n'est pas juste le taux d'intérêt nominal, c'est le taux d'intérêt réel. En d'autres mots, le taux d'intérêt directeur moins l'inflation. Depuis à peu près 9 mois, l'inflation descend, tandis que le taux directeur reste pareil, et donc le taux d'intérêt réel devient plus élevé. En d'autres mots, même si la Banque centrale ou les banques centrales ne touchent pas les taux d'intérêt pour une plus longue période que les gens s'attendent et que l'inflation descend, en faisant rien, c'est l'équivalent d'appuyer le frein économique davantage. Donc, s'ils veulent vraiment un atterrissage en douceur, qui est le scénario de base pour Fidelity, à fur et à mesure que l'inflation descend, ils doivent recalibrer les taux d'intérêt à la baisse. Mais ça, c'est une histoire américaine. La façon qu'on décrit la différence entre la Banque du Canada et la Fed n'est pas vraiment obligée de couper leurs taux, mais ils veulent, puisqu'ils ont un double mandat. Ils veulent protéger leur deuxième objectif d'une économie de plein emploi et ils veulent l'atterrissage en douceur. L'économie canadienne est dans une situation où il y a plus d'inflation dans le système, en partie due à l'immigration assez extraordinaire, qui, à long terme, augmente le potentiel économique, mais à court terme, c'est plein de gens qui arrivent avec plein de besoins, mais qui ne produisent pas nécessairement...
Il y a plein de mesures encore. Là.
C'est ça. Donc, ça peut être inflationniste à court terme, ce n'est pas le seul facteur. Donc, la Banque du Canada est dans une posture difficile parce qu'elle ne veut pas vraiment descendre les taux d'intérêt, mais d'après nous, elle n'aura pas le choix.
Mm-hmm. Dans ce qui influence le plus le rendement des actions, on peut parler de 2 variables significatives, bien sûr la direction des taux d'intérêt et les profits.
Surtout les profits, mais oui, effectivement, c'est ces deux facteurs très, très lourds. Côté profits, il y a de bonnes nouvelles aux États-Unis. La direction des profits, même si ça ne sera peut-être pas à la même hauteur que certains espèrent, ça pointe dans la bonne direction. Mais les profits, c'est comme les taux d'intérêt. C'est moins important de savoir quand ils vont couper, puis à quelle amplitude qu'ils vont couper, ou à quel niveau que les profits vont finir en 2024. Mm-hmm. Directionnellement, sur les deux questions, on voit les taux d'intérêt plutôt vers la baisse, on voit les profits plutôt vers la hausse, et ça c'est très encourageant.
Bon, on va retenir ça. On t'a enregistré en passant.
Ben, si je peux me permettre... Vous êtes malheureusement exposé à beaucoup trop de mauvaises nouvelles parce qu'il y a un certain biais...
Rapproche le micro, on veut bien t'entendre.
Il y a un biais médiatique envers la mauvaise nouvelle parce que ça pomme plus. Et c'est pour ça que l'investisseur moyen est souvent porté à faire des erreurs émotionnelles à court terme parce qu'il est bombardé de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle le suit partout avec les téléphones d'aujourd'hui.
Ouais.
Mais malgré toutes les incertitudes qui existeront toujours, les mauvaises nouvelles, on peut parler de géopolitique, il y a quand même des bonnes choses qui se passent.
Mais parlant de mauvaises nouvelles et du prophète, là, Nostradamus... Là,
Monsieur Trahan?
Oui, lui voit un sursaut de l'inflation, dans le sens que l'inflation s'est apaisée, mais lui, il dit non, ça va changer de direction, puis bang, quasi semblable aux années 80.
Bien, c'est toujours un risque. Encore une fois, personne n'a une boule de cristal. La réaccélération de l'inflation sera à peu près le pire scénario possible pour les marchés parce que ça implique que les taux d'intérêt vont soit rester pareils ou peut-être augmenter, puis ça, c'est un facteur important. C'est pour nous un scénario moins probable. La désinflation se généralise, elle se mondialise. Les problèmes chinois s'exportent via de la déflation. Puis tous les propos du monsieur avant moi envers l'intelligence artificielle qui, en bout de ligne, les bénéfices et de l'efficacité, la technologie reste déflationniste et l'évolution de la technologie continue.
Attends, c'est super important ce que tu viens de dire là parce que la productivité qui se gagne avec les avancées technologiques font en sorte qu'il y a une pression quelque part à la baisse sur les prix ou encore empêche l'inflation de ressurgir.
La productivité, c'est de loin la meilleure solution à l'inflation. Malheureusement, les banques centrales ne peuvent pas augmenter la productivité. Leur rôle, c'est s'il y a trop d'inflation, qui est un déséquilibre de trop de demandes ou pas assez d'offres, puis après la COVID, on avait un peu des deux.
Mm-hmm.
Leur seul outil, c'est ralentir la demande économique, juste à temps que ça rejoint l'offre et que l'inflation est maintenue ou solutionnée. Mais si on peut avoir, pour d'autres sources, d'autres raisons, un boom de productivité, ça augmente l'offre d'une façon que tu n'as pas besoin de réduire la demande. Et c'est ça l'ingrédient de base d'un atterrissage en douceur. Puis là, ça va être froid ce que je vais dire, parce que ça peut sembler comme une mauvaise nouvelle, mais en fait, c'est une très bonne nouvelle pour l'investisseur et aussi pour le problème d'inflation. Vous avez, pour ceux qui suivent un peu les marchés, vous avez sûrement remarqué que chaque jour, il y a une compagnie, surtout aux États-Unis, qui laisse aller 3 % de leur effectif, 4 % 5 % Clairement, c'est de mauvaises nouvelles pour les gens qui perdent les jobs, leur job s'ils ne voulaient pas la perdre. Au même temps, ça, c'est un boom de productivité dans le sens que si on est capable de faire autant ou plus avec moins, ça protège les marges de profit, ça peut créer plus de désinflation dans le coût des entreprises que les revenus, donc ça peut augmenter les profits. Puis en plus, pour le problème d'inflation, ça vient d'une part du fait qu'il y a un manque d'humains. Mm-hmm. Le marché d'emploi, même s'il est moins fort qu'il était il y a un an, il est encore déséquilibré en faveur de l'employé. Donc, ces nouvelles-là, c'est très rassurant pour l'investisseur.
Et on regarde le taux de chômage, malgré toutes les annonces, aux États-Unis, on parle de 3,7.
Oui, c'est pas assez. Faudrait que ça monte plus. Parce
toi,
que...
donc, tu es en train de me dire que tu veux du chômage.
je souhaite ça à personne, mais si on prend, une vue d'oiseau envers l'économie, c'est clair que s'il n'y a aucune augmentation du taux de chômage, on ne parle pas d'atterrissage en douceur, on parle d'aucun atterrissage. Et là, tu augmentes le risque que l'inflation réaccélère, un peu comme les années 70 qui nous ont amenés à l'état des années 80. Donc, faut un peu de chômage, faut que les employés soient extrêmement civiques, qu'ils se présentent au travail, faut pas qu'un employé ait la confiance ultime que s'il y a quoi que ce soit qui se passe au travail qui est moins, ils peuvent instantanément avoir une job plus payante le lendemain. Cette confiance-là réduit la productivité. Je sais que c'est froid pour les personnes concernées.
Ouais, mais c'est des situations qu'on a eues. On a été témoins durant la pandémie. Ouais. On a été témoins d'arrogance de gens qui se disent « Si je perds ma job, c'est pas grave, je m'en trouve une autre 2 heures plus tard. »
Oui. Donc, on est un peu encore dans cette période-là, mais faudrait que le taux de chômage augmente un petit peu parce que l'économie américaine, c'est pratiquement 70 % des services et donc dépendant des salaires. Et si le marché d'emploi est pas mieux équilibré qu'aujourd'hui, on parle pas de défavorable pour l'employé, on parle d'équilibré.
Est-ce que le plein emploi aux États-Unis, il est différent d'au Canada? Est-ce que c'est autour de 5?
Aujourd'hui, bien, la pleine emploi, je pense que la Fed ne voudrait pas se rendre nécessairement à 5, mais dans les 4, ça serait acceptable. Pour le Canada, notre bas était le 4. On a déjà commencé à monter. On n'est pas loin du 6. Ce qui confirme un peu notre vue que l'atterrissage serait un petit peu moins douce au Canada. En fait, certains de Fidélité se prononcent sur l'idée qu'on est déjà en récession au Canada. Ça n'a pas encore été prononcé.
Il y a des nouvelles encourageantes dans tout ce que tu as raconté jusqu'à maintenant, Ghislain, mais on ne peut que penser parfois en lisant le journal. Je fais un geste comme si je mettais mon iPad de l'autre bord, mais n'a plus de papier. Mais le journal nous apprend qu'il y a des tensions géopolitiques de par le monde. On n'a qu'à penser à Gaza, on pense à Taïwan, mais on dirait que partout, il y a quelque chose qui bouge. Dans le passé, oui, il y a eu des épisodes comme ça, mais ces tensions géopolitiques, est-ce que ça peut désamorcer une forme de reprise?
Ben, c'est clair que le contexte géopolitique pour 2024 risque d'être extra crispy pour différentes raisons. Ça pourrait induire en erreur plusieurs investisseurs. Faites bien attention parce que c'est souvent une source d'erreur et pas une source de bonnes décisions pour plein de raisons. Premièrement, la volatilité géopolitique est souvent ponctuelle. Deuxièmement, la réaction des marchés peut être très contre-intuitif. La première guerre de ma carrière, c'était l'Irak en mars 2003, puis c'était le début d'un marché haussier assez important. Les gens s'inquiètent de la Troisième Guerre mondiale. Je les rappelle que la Deuxième Guerre mondiale, la bourse était positive parce qu'on a capé les taux d'intérêt à 2 %, on a injecté beaucoup d'argent, on a réanimé le secteur manufacturier. Puis finalement, réaliser qu'il y a un grand disconnect avec les entreprises qu'on a sélectionnées pour vous, leurs opérations et leurs clients, versus la manchette qui vous inquiète. Puis je m'explique. Clairement, si on a une entreprise qui exerce son métier au milieu d'un conflit géopolitique, il va y avoir des interruptions. Mais ce n'est pas le cas pour 99 % des compagnies dans le portefeuille, si pas plus. Donc, si leur business n'est pas interrompu, leurs opérations continuent, ce n'est pas fondamentalement une nouvelle qui les affecte. Ça affecte peut-être le titre à court terme à cause de l'émotion du moment, qui est triste, malheureusement, tout ce qui se passe, ça c'est clair. Mais l'autre point, c'est la résilience des consommateurs. Puis je vous lance le défi la prochaine fois que vous vous lisez une nouvelle qui vous attriste comme humain, parce que malheureusement, il y en a un petit peu trop, là. C'est pas que c'est nouveau, hein. Il y en a toujours eu, c'est juste que c'est beaucoup plus médiatisé aussi. Mm-hmm. Puis il y en a un petit peu plus dernièrement. La prochaine fois que vous lisez une mauvaise nouvelle qui vient vous chercher d'un point de vue humain, sociétal, posez-vous la question, qu'est-ce que vous allez faire de différent comme consommateur le reste de la journée, le reste de la semaine, le reste du mois? J'ose croire que vous allez faire l'épicerie, vous allez payer votre facture de téléphone, vous allez chauffer votre maison, vous allez peut-être aller voir quelqu'un, vous allez aller au travail, vous allez continuer à agir comme le même consommateur qu'avant la nouvelle. Donc, si le consommateur continue, l'opération de l'entreprise continue, ce n'est pas un risque fondamental pour nous et ça informe pas souvent notre décision.
Ouais. Je peux partager une observation que j'ai faite il y a quelques années en regardant les décennies de progression des indices américains. Dans les années 60, en fait, on sortait d'une tension vive avec l'URSS, un avion qui porte le nom de U-2, qui a été repris par le groupe irlandais, a été abattu, un avion espion américain au-dessus de l'URSS. Évidemment, là, ça déclenche des hostilités. Il y a des missiles qui sont pointés vers Washington, qui ont été installés par les Russes à Cuba. Ça, c'est tension maximale. Quelques années plus tard, le président Kennedy est assassiné. On regarde la séquence, la bourse monte.
Les réactions contre-intuitives peuvent être très surprenantes. L'élection de Trump, c'est un autre exemple. Tout le monde, je fais beaucoup de séminaires à clients, puis hey, si Trump rentre, ça va mal, ça va brasser. On sait qu'est-ce qui arrive après, c'est à l'inverse. La COVID.
Oui.
Moi-même, j'aurais fait la même erreur. Si quelqu'un m'aurait dit au mois de janvier 2020, regarde, juste là, dans deux mois, là, on va fermer boutique au niveau mondial. Je dis OK, bon, ben, je pense que ça va pas être une super bonne année 2020. C'était une des meilleures années sur deux décennies pour la bourse. Donc, c'est la nouvelle qu'on doit prendre au sérieux, encore une fois, comme humain.
Ouais.
Mais pour être un bon investisseur, il faut être froid.
Ghislain, tu as préparé quelques tableaux. Je veux que tu me présentes un peu ce que ça signifie ici, le cycle économique mondial qui connaît une expansion inégale.
Ben ça c'est justement un visuel qui peut sembler de la mauvaise nouvelle à première vue. Si je prends le temps de l'expliquer, là, ça, c'est le cycle économique. Donc, l'économie passe à travers des cycles. Des fois, ça sort d'une récession, donc il y a une croissance importante. Il y a une certaine maturité. Éventuellement, pour différentes raisons, souvent, les taux d'intérêt sont plus élevés, ça ralentit l'économie. Après ça, on a une contraction de différentes amplitudes, douce ou dure, except ça, c'était le débat de tantôt. Puis après ça, on commence un nouveau cycle. Ce que nous, on voit là, surtout avec l'idée que plusieurs de ces économies-là pourront probablement réaliser un atterrissage en douceur, ça annonce un début de cycle par après. Donc, on se compare à un nouveau début de cycle. Donc, on a confirmé que le ralentissement n'était pas sévère, laisser faire le scénario de 2008. On voit beaucoup de scénarios aujourd'hui comme l'anti-2008. Un ralentissement économique, mais rien comme 2008 pour plein de raisons.
Mais c'est pas un pétaflop.
Je pense pas que ça serait un pétaflop. Mais le point, c'est que la bourse... Tu sais, on parle de récession, mais la bourse et l'économie, c'est rarement synchronisé. Donc, la bourse ne représente pas l'actualité. La bourse, c'est une anticipation des profits futurs. Donc, la bourse regarde en avant. Et on se doit, comme bon investisseur, de regarder encore plus loin. Donc, les placements qui nous intéressent pourraient sembler contre-intuitifs après toute cette discussion de récession douce ou pas mm-hmm. douce. On s'intéresse aux secteurs sensibles à l'économie, la consommation discrétionnaire, les petites compagnies plus cycliques ou sensibles à l'économie.
Ouais. Alors, dans le cycle ici, on voit les ballons. Là. La Chine, si je comprends bien, on a le demi-cercle, mais il se continue de l'autre côté. Ça veut dire qu'il va amorcer sa phase de reprise.
Si le gouvernement chinois stimule comme ils ont déjà fait, ça pourrait repartir. Je vous avoue que la Chine, par contre, vit une situation similaire aux États-Unis en 2008, si pas pire.
Ah oui?
Ouais. Donc, c'est pas pour rien que la bourse...
Et ça a commencé avec l'immobilier.
Ça a commencé, puis c'est encore le problème. L'immobilier, c'est 25% de l'économie chinoise. Il y avait une surévaluation extraordinaire relative aux revenus chinois qui fait facilement compétition à Vancouver ou Toronto. Le catalyse pour dégringoler le marché immobilier, c'était un peu une politique du gouvernement central qu'on appelait les trois lignes rouges. Ils ont attaqué leurs champions technologiques. Les étrangers n'ont pas aimé ça, les investisseurs étrangers. Donc, plusieurs problèmes, mais comme investisseur, encore une fois, il faut regarder en avant. Les marchés financiers, c'est moins important si l'économie va bien ou va moins bien. C'est plutôt si ça va mieux ou si ça va pire. C'est la direction et pas l'altitude qui compte pour le futur. Il y a certains signes que le gouvernement chinois, qui avait quand même une posture rigide envers leur politique pour régler des problèmes, ils n'ont pas fait ça pour rien. Il y avait un problème, il y avait différents problèmes à régler, mais ils semblent vouloir intervenir davantage. Si ça continue, ça pourrait aider. Ça pourrait aider.
L'autre graphique représente le SP500, mais tu as choisi le SP500 dont les entreprises ont un poids similaire plutôt que... Actuellement, c'est la capitalisation boursière.
Ouais.
Les plus gros emportent tout dans l'indice SP500.
Oui, donc ce graphique-là, puis cet indice-là, ça représente plus le pouls général des actions versus le leadership des mammouths technologiques qui tirent la moyenne à la hausse dans certaines périodes, comme les premiers 9 mois de 2023 et comme le début de l'année 2024. Donc, la raison pourquoi est-ce que je voulais partager ce graphique-là, c'est que c'est un petit rappel que le taux de la bourse, c'est non linéaire. Il n'y a pas de ligne droite, puis il n'y aura pas dans le futur. Il faut l'accepter d'avance avant d'investir. Mm-hmm. Il y a deux types de corrections. Il y a une correction au prix, quand le prix chute soudainement. Puis souvent, c'est à cause qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que la bourse ne peut pas regarder plus loin, parce qu'il faut qu'elle digère un problème actuel. Problème d'inflation, on ne sait pas à quel point les taux d'intérêt vont monter. On a de la misère à regarder plus loin, j'attends qu'on ait une résolution sur cette question-là. Ça va moins bien. COVID, c'est un autre exemple, puis il y en a eu plein dans le passé, il y en aura plein dans le futur. Correction au prix. Il y a un autre type de correction, c'est une correction dans le temps. C'est quand la bourse fait du surplace pour une période de temps, comme qu'on vient juste de voir, comme qu'on a vu à deux reprises dans le graphique. Techniquement, c'est le marché qui se crée une base. Et ce qu'on voit, surtout avec le rebond du quatrième trimestre 2023, c'est qu'on est en train de casser la tendance. Là, c'est pas du tout un garanti de gros rendement en 2024, mais ce qu'on voit, c'est encourageant.
Et ici, c'est les gains boursiers. On peut rappeler que ça a été dominé par les 7 géants ou 7 merveilles. 61,6% du rendement total de l'indice est attribuable à 7 compagnies sur 500.
Puis c'était pire au mois de septembre. Au mois de septembre, le rendement de la bourse était un petit peu moins élevé, c'était à l'entour de 17, mais c'était 100% des Magnificent Seven.
Alors, Nvidia, Microsoft, Google, Apple, Amazon, Tesla. Ouais,
c'est ça. Cette année, c'est plus Magnificent Seven parce que Apple, Google puis Tesla, ça va un petit peu moins bien. Mais ce que j'aime de ce qu'on a vu dans le dernier trimestre, c'est l'élargissement de la performance, c'était pas aussi concentré que les premiers 9 mois de l'année. Éventuellement, on va commencer un nouveau cycle économique, on parlera moins de récession, peut-être que M. Trahan sera moins populaire. Mais c'est là ce qu'on pourrait voir un élargissement de la performance.
Mais moi, j'attends le jour où il va annoncer des bonnes nouvelles, je vais avoir peur.
Peut-être, ça sera un indicateur contrarien, effectivement.
Là, tu veux faire des comparaisons avec les ratios cours-bénéfices. C'est une façon d'évaluer si une action est chère. Rappelle un peu ce que c'est le CB, cours-bénéfice. Price earnings, en anglais.
Ouais, donc le cours, c'est le prix d'une action. Le bénéfice, c'est le bénéfice par année d'une action. Donc, si on a un ratio cours-bénéfice de 10, ça veut dire que c'est une compagnie qu'on va dire qu'à 1 $ de profit, mais on va la payer 10 $ dans les marchés financiers. Une autre façon de voir ça, c'est que si le profit ne bouge pas, ça va me prendre 10 ans de 1 $ de profit pour doubler ma mise, pour doubler mon argent. S'il y a une croissance de bénéfices, on va le doubler avant. Donc ça, c'est de la mathématique simple. Il y a d'autres facteurs qui influencent la chose. Ici, c'est la relation des évaluations des grandes compagnies qui est clairement le leadership boursier. Parce que le Magnificent Seven, ils ont des évaluations magnifiques.
Ah oui, parfois c'est gigantesque. Oui.
Mais c'est réellement, dans certains cas, c'est réellement des compagnies magnifiques. Ceci dit, pour le prochain dollar, on cherche souvent des aubaines, des distorsions dans le marché, une compagnie à l'ombre des autres qui a quand même des perspectives intéressantes. L'équipe de recherche Fidelité fouille beaucoup dans les petites compagnies qui font pas les manchettes parce que ils sont dans d'autres secteurs d'activité que l'intelligence artificielle. Ils peuvent peut-être en bénéficier pareil.
C'est votre village des valeurs. Là.
Un peu. Et le jour qu'on commence un nouveau cycle économique, puis ça, il y a de l'incertitude quand, il y a de l'incertitude après quoi. Dans un début de cycle économique, c'est de loin une des meilleures classes d'actifs. Donc, c'est là ce qu'on s'intéresse beaucoup ces jours-ci.
Wow! Eh bien, on a appris plein de choses. Merci, Ghislain Maillet, de Fidélité.
Plaisir.
Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
Voilà, nous y sommes. La question du beau-frère, elle provient de Rose de Magog. Son beau-frère lui a demandé pourquoi elle ne se départit pas de ses fonds et FNB de style valeur. Après tout, dit-il, les titres de croissance surpassent toujours les placements valeur dans les dernières années. Bien, toujours, c'est pas tout à fait, mais en fait, fréquemment, oui, c'est arrivé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, bien, Rose, je vous réponds, concernant votre beau-frère, il commet une erreur fréquente, c'est-à-dire, il extrapole les résultats du passé dans l'avenir. Prédire la valeur future d'une action en bourse et anticiper la direction des grands indices sont des défis auxquels sont confrontés les investisseurs et les professionnels. Il n'existe pas de méthode infaillible pour prédire avec certitude les mouvements futurs. Il existe plusieurs outils et des indicateurs qui peuvent aider à estimer les probabilités à prendre des décisions d'investissement éclairées, dont l'analyse technique qu'on a parlé, qu'on a expliqué en début de podcast. Mais il y a aussi l'analyse fondamentale qui consiste à évaluer la santé financière et les perspectives de croissance d'une entreprise comme si on achetait la compagnie en examinant ses états financiers, ses ratios, ses perspectives, et ça va jusqu'à des visites en personne et des analyses comme si on devenait un des propriétaires véritables. De toute façon, c'est un peu ça, détenir des actions. On devient un propriétaire, mais si vous êtes de type gestionnaire, entrepreneur, alors là, vous utilisez cette approche pour déterminer si une action est sous-évaluée ou surévaluée par rapport à sa valeur véritable ou valeur intrinsèque et pour estimer son potentiel de croissance future. Il y a aussi l'analyse quantitative. Ça consiste à utiliser des modèles mathématiques et statistiques pour évaluer les risques et les rendements potentiels des investissements. Les modèles quantitatifs peuvent prendre en compte divers facteurs. Il y a les données économiques, les tendances du marché, les données historiques sur les prix pour générer des prévisions sur la performance future des actions et des indices. On va se servir la plupart du temps aussi d'indicateurs économiques comme le PIB, le taux de chômage, l'inflation, les taux d'intérêt qui fournissent des informations très précieuses sur l'état général de l'économie d'un pays et influencer les perspectives de marché boursier. Les investisseurs, les analystes suivent de près ces indicateurs pour évaluer les risques et opportunités. Le sentiment du marché, ça, c'est proche de ce qu'on dit la méthode d'investissement momentum. Ça reflète les attitudes, les attentes des investisseurs concernant la performance future des marchés, les mesures du sentiment, telles que l'indice de confiance des consommateurs, l'indice de peur, le VIX, la cupidité et les enquêtes auprès des investisseurs qui peuvent aider à évaluer le niveau d'optimisme et de pessimisme des participants au marché et anticiper les mouvements. Alors, en combinant diverses approches et en tenant compte des facteurs macroéconomiques, des tendances sectorielles et des spécificités de chaque entreprise, les investisseurs peuvent augmenter leurs chances de réussite et prendre des investissements plus éclairés. Toutefois, c'est important de rappeler que les marchés sont complexes, imprévisibles et avec les meilleurs outils, les plus sophistiqués, on ne peut pas garantir des prédictions exactes à 100%. Mais avec tout ça, lequel serait le meilleur indicateur d'entre tous? Bien, je vais vous donner une piste. Les cours des actions du SP500 ont augmenté au même rythme que les bénéfices depuis 1945. Tous les deux ont augmenté de 7,3% par an. Quoi? Les bénéfices puis le rendement de l'indice, même affaire? Ouais, mais les actionnaires ont fait mieux que ça parce qu'ils ont reçu des dividendes. Alors, il faut ajouter à peu près 2 % par année à ces rendements. C'est pour ça qu'on dit souvent que les actions rapportent grosso modo aux alentours de 9 %. Donc, les bénéfices et le cours des actions, ça évolue pas toujours au même rythme. Parfois, les bénéfices ont progressé plus vite que les cours et parfois, c'était l'inverse. Les deux ont cependant suivi une tendance à la hausse et la plupart du temps, ils ont augmenté et diminué parallèlement. Alors, c'est tout un indice. On peut conclure assez facilement que pour avoir une idée du niveau auquel se situera le SP500 d'ici quelques années, les investisseurs devraient trouver une projection de bénéfices par action le plus fiable possible, quitte à fabriquer cette information-là à partir d'informations brutes. Alors, considérant tout ce qu'on vient de dire, les actions, le SP500, est-ce que c'est surévalué en ce moment? Depuis la fin de 2009, après le pire de la crise financière et le début de la reprise post-récession, le SP500 s'est apprécié de 12 % par année, tandis que son bénéfice par action,
Il a augmenté un taux annuel exceptionnel de 15,5. Alors là, on peut dire que le marché a comme été sous-évalué puisque les bénéfices étaient supérieurs. C'est là-dessus que se conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ici Fabien Major. À bientôt.